Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service qui s'intéresse à la viabilité des zones urbaines. Comment les rendre viables? Vous savez, la population croît de plus en plus, mais les infrastructures sociales de base ne suivent pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission. Nous recevons dans ces studios le professeur Barthélémy Kalamba Ibanza, démographe. Bonjour, professeur.
Bonjour, Zodi.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons également accueillir tout à l'heure Michel Ouyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP, et Apollinaire Kitengi, architecte, sera également de la partie pour échanger autour de cette question, la viabilité des zones urbaines et périurbaines en République démocratique du Congo. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde, Marcel Ngombo assure la coordination, Tati Mapoukou à la réalisation. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables dans ces pays n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission, Okapi Service. La population urbaine croît rapidement, d'après les démographes. Cette expansion démographique entraîne automatiquement une carence en termes d'infrastructures sociaux de base. On parle des logements, les écoles, les marchés, les hôpitaux, etc. Kinshasa, la capitale, par exemple, fait face à une croissance démographique non planifiée. Et cela a des incidences sur le vécu quotidien, les difficultés des transports, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre viables les zones urbaines et périurbaines? On en parle avec nos invités, professeur Barthélémy Kalamba Ibanza et démographe. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, José.
Alors, vous confirmez que la croissance démographique est très rapide. Il semble que c'est 2% l'an.
Oui, et la croissance démographique dans notre pays est autour de 3%
l'an. 3%
l'an. 3%. Nous avons une fécondité très élevée, une très grande proportion de femmes à l'âge de procréer. Et de l'autre côté, la planification familiale, l'utilisation des méthodes de planning familial moderne, cette utilisation est très faible. Donc, ce qui fait que lorsque nous mettons tous ensemble, nous avons une croissance démographique élevée. Et à cela, il y a une très faible implication de l'État dans cette planification démographique.
À un moment, Kinshasa, c'était 10 millions. Aujourd'hui, je ne sais pas, 15. Certains avancent même jusqu'à 20 millions. On ne sait pas exactement, on est au nombre de combien. Mais on sait que ce qu'on peut retenir, c'est que la croissance est de 3% l'an.
Non, la croissance qui est 3% l'an, c'est au niveau du pays.
Sur l'ensemble du pays.
Oui, mais au niveau des villes, cette croissance est très élevée dans la mesure où la croissance des villes, ce n'est pas simplement au niveau de la fécondité, mais plutôt au niveau des migrations. Donc il s'agit là de ce qu'on appelle
l'exode rural.
Eh bien, comme dans nos villages, dans nos milieux ruraux, les conditions de vie sont devenues très très mauvaises, les individus préfèrent aller là où ils estiment trouver des conditions de vie assez bonnes. C'est comme ça qu'ils convergent vers les centres urbains. Et donc, ce qui fait que Kinshasa, la croissance de Kinshasa n'est pas en dessous de 20-30%.
Bon, c'est pas seulement le cas de Kinshasa. Vous prenez Bukavu, vous prenez Goma et les autres villes, c'est la même situation. Lubumbashi aussi.
Justement, tous les centres-villes. Et ce qu'il faut également dire, c'est que aujourd'hui, nous sommes incapables de pouvoir vous dire exactement comment ce mouvement-là s'effectue. Nous voyons que Kinshasa est bondé de monde, mais on ne sait pas, faute de recensement, on n'a pas une photographie pour nous montrer l'origine de ces compatriotes. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, les gens peuvent venir du Kasaï, les gens peuvent venir de l'Équateur, du Congo central, de Bandundu, mais on ne peut pas vous dire exactement combien d'individus sont venus, c'est ça, faute de recensement.
De recensement. qu'est-ce que cela provoque comme, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence?
Mais la conséquence, c'est la surcharge de l'espace qui est habité. Il y a la surcharge de quelques infrastructures sociaux de base.
De base,
oui. Oui. Vous pouvez le voir lorsque vous roulez, vous êtes sur l'avenue Kasaï, par exemple. Sur cette avenue-là, en 1985-86, on pouvait faire du 60 à l'heure. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça.
À cause des bouchons.
Non, mais c'est bondé de monde. Tous ces individus-là, pour la plupart, ce ne sont pas des gens qui sont nés à Kinshasa, c'est des gens qui sont venus à Kinshasa.
D'ailleurs, oui.
Oui. Et vous avez ça partout. Vous ne pouvez plus faire du 60 à l'heure sur l'avenue de l'université. Vous ne pouvez pas faire du 60 à l'heure sur l'avenue Bokassa. Eh bien, ça, c'est juste quelques indications donc, qui montrent qu'il y a une attirance. Kinshasa attire. Maintenant, quand ces gens arrivent à Kinshasa, leurs conditions de vie ne sont plus bonnes. Regardez, on parle, lorsqu'on a parlé de la gratuité aujourd'hui,
de l'enseignement
primaire et même de base, vous allez trouver qu'il y a un surnombre d'enfants dans
les salles de classe.
Oui. Tout simplement parce que on n'a pas non plus une politique de planification pour dire nous avons construit ces bâtiments, c'est pour autant d'individus, autant d'enfants, et aujourd'hui parce qu'on n'avait pas pensé ça. On peut également voir, quand on parle du dépassement, on peut voir dans nos universités, tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire, les locaux n'avaient pas été construits pour accueillir autant d'enfants. Et donc, il y a là une absence dans le chef du gouvernement, une absence de la culture de planification.
Donc, les infrastructures sociales de base que nous avons sont surchargées, n'ont pas suivi.
Les infrastructures, non seulement elles sont surchargées, mais entre-temps, on n'en construit pas. On n'en construit pas de nouvelles infrastructures.
Oui.
Je peux même aller plus loin en attendant que les autres collègues interviennent. Si vous êtes sur... du côté de Chaumba, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa,
oui,
vous allez trouver que les écoles qui se trouvent de ce côté-là, on a transformé ces espaces-là maintenant en supermarché. Eh bien, les législateurs, les planificateurs, ceux qui avaient construit, fait le plan de ces établissements,
oui,
n'avaient pas prévu construire des supermarchés.
Des supermarchés ou des magasins.
Oui, oui. Et donc vous pouvez maintenant voir que cet espace-là, ce sont des espaces scolaires. Et maintenant, on ne pense même pas à l'augmentation des effectifs des enfants. On préfère consacrer ça à la construction des magasins.
Des magasins parce que ça va rapporter évidemment de l'argent.
Oui,
nous avons en ligne, on va accueillir l'ingénieur Michel Oyumbu. Il est président de la corporation des ingénieurs BTP de la RDC. Ingénieur Michel Oyumbu, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Bienvenue dans ce studio. Et nous avons également en ligne Apollinaire Kitenge, architecte. Bonjour Monsieur Apollinaire Kitenge.
Bonjour Monsieur Jody.
Alors dites-nous, comment rendre viables les zones urbaines? Il y a certains quartiers, par exemple à Kinshasa, Mpassa et les autres, les gens ont occupé ces quartiers-là à cause de l'explosion démographique, mais il n'y a pas assez d'infrastructures sociaux de base. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème?
Merci beaucoup, Jody, pour votre invitation. Je voudrais vous dire de prime abord que la viabilisation urbaine comprend beaucoup de facteurs. Et certains enjeux qui affectent aussi cet aspect de planification. Je crois que le professeur en étayant, il a pris dans un ensemble du tout, par rapport à ces flux migratoires, par rapport aux équipements, mais la viabilisation d'une cité ou d'une ville ou bien d'un espace urbain comprend certains facteurs. C'est-à-dire, quand il y a un lotissement ou bien un projet d'investissement ou bien un projet d'équipement de base, on parle d'une trame de verdi, de voirie et réseaux divers. On a cette trame qu'on a réservée pour telle infrastructure. On essaie de voir l'accès de ces sites ou bien de cet endroit. On essaie de voir quels sont les équipements qui sont nécessaires et qu'on peut valoriser et rendre viables. Au départ, on voit les équipements collectifs, on voit les équipements d'État, et puis on peut voir une trame assainie pour ce qui est des logements. Quand je parle d'équipements collectifs ou sociaux de base, vous avez les écoles, vous avez les hôpitaux, vous avez aussi les espaces culturels. Les églises, tout ça, mais qui pratiquement aujourd'hui, ça peut être très difficile. Avec la multiplicité de religions ou bien de cultes, on ne saura pas à qui attribuer en avance cet espace culturel. Dans les temps, c'était les catholiques ou les protestants ou les musulmans. On peut trouver un espace qu'on peut laisser pour la mosquée ou une cathédrale. Mais aujourd'hui, ça peut être un peu difficile. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons des espaces funéraires qui font intégrer dans la viabilisation de certains sites. Et tout ça en tenant aussi compte de ce que le prof venait de dire, de l'explosion démographique. Un planning démographique par rapport à ceux-là qui vont accéder à ces espaces. Et là, on peut être sûr qu'on a la voirie, on a d'autres réseaux divers, par exemple le téléphone. La voirie ne suffit pas seulement d'avoir la route, il faut projeter dans l'avenir. Peut-être on peut avoir des trams, on peut avoir le métro, on peut avoir aussi les trains urbains, qu'il faut connecter avec ce qui existe à l'avant. Et il faut aussi voir les équipements pour la conduite des eaux et aussi les équipements pour évacuer les eaux de pluie ou bien les eaux vannes ou les eaux usées. Il faut aussi prévoir la téléphonie. Actuellement, vous avez avec la fibre optique. Il faudra aussi prévoir. Et il faudra aussi voir, je dis, qu'il faut voir, aujourd'hui vous avez les pousse-pousse ici chez nous dans la ville, qui pratiquement depuis les années 80 ou 75, vous les avez jusqu'aujourd'hui, mais qui n'ont pas les espaces pour les traîner. Et vous avez aussi actuellement les motos et qui entrent en jeu, qu'il faut donc aussi prévoir des pistes cyclables pour eux, qu'il ne faut pas encombrer avec la locomotion automobile. Voilà un peu dans la globalité quelques éléments qui pourront nous aider à viabiliser un site urbain.
Bien. Apollinaire Kitenge, architecte, merci. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, Julie.
Bien. Nous revenons à vous, ingénieur Michel Oyumbu. Vous avez suivi ce que l'architecte Kitenge a dit par rapport à la viabilisation des zones urbaines. Quel est votre avis?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Vous savez, quand on doit travailler dans une ville, ce n'est pas de la génération spontanée. On ne va pas se réveiller le matin et on se dit, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Il faut qu'il y ait d'abord des politiques qui doivent être tracées. Il faut qu'il y ait des politiques d'aménagement. Et ces politiques d'aménagement vont produire les différents plans d'aménagement. Et il y en a plusieurs. Il y a les plans d'aménagement urbain, il y a les plans de développement des infrastructures, d'une manière générale, par exemple, les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires, les infrastructures de production d'eau, de production d'électricité, ainsi de suite. Donc, tout doit être planifié sur base des politiques publiques en la matière.
Il semble que le plan actuel est déjà dépassé. Il doit être mis à jour.
Je ne sais pas de quel plan vous parlez. Vous voulez plan d'aménagement de la ville?
Vous faites allusion à un plan d'aménagement qui existerait.
Non,
me dis qu'avec l'évolution, tout ça, les changements, l'explosion démographique, il faudrait peut-être... Vous voulez dire que ce plan existe ou pas?
Oui, mais nous avons un plan. Je ne sais pas comment on l'appelle, schéma d'orientation stratégique de la ville de Kinshasa.
Oui.
Qui avait été promulgué, je crois, par une idée de gouverneur, je crois, 2018, si je ne m'abuse, 2017-2018. Mais ce plan n'a jamais été appliqué. Depuis 1960, dans ce pays, on a élaboré des plans d'aménagement et aucun seul n'a été appliqué. Aujourd'hui, on est en train de développer certaines infrastructures routières dans la ville. Sur base de quoi? Parce que nous avons un plan de développement et de transport de la ville de Kinshasa. Mais tout est en train de se faire en dehors de ces plans-là. C'est ça notre malheur. Des fois, nous avons des plans qu'on ne met pas en œuvre. De l'autre côté, nous n'avons pas du tout de plan, et nous nous retrouvons dans un imbroglio. Nous retrouvons dans une confusion et nous sommes rattrapés par notre propre stupidité. Donc, ce sont des choses qui doivent... Il faut qu'il y ait des politiques publiques qui définissent les grandes orientations, les grandes lignes, ce que l'on veut aborder. Il faut qu'il y ait des plans, pas seulement disponibiliser des plans, mais que ces plans doivent être mis en œuvre. Et que l'on sache qu'au bout de 5 ans, on va faire ça. Au bout de 10 ans, on va faire ça. Moi, je me rappelle, par exemple, nous avons pris part à l'élaboration ou à l'adoption des PDTK, le plan directeur des transports de la ville de Kinshasa, qui s'est chiffré à 32 milliards de dollars. Il y a de cela 2-3 ans, depuis 2018, que ce plan-là a été adopté et tous les acteurs de la ville, aussi bien que le gouvernement central, ont été associés. Mais à ce niveau, quel est son taux d'exécution? Il n'a même pas 1% d'exécution. Donc, nous allons continuer à développer nos villes d'une manière où nous n'avons aucune politique publique, nous n'avons aucun plan d'aménagement. Et quand nous les avons, nous ne les mettons pas en œuvre. Nous serons rattrapés par les événements.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez suivi, par exemple, professeur Barthélémy a parlé de la gratuité qui est arrivée. Aujourd'hui, on assiste à... Les salles de classe sont bondées parce qu'il n'y en a pas assez.
Mais je l'ai suivi, mais ce qui est déplorable, c'est ce qu'il a dit, je le déplore aussi, c'est que les espaces qui ont été cédés gratuitement à certaines confessions religieuses pour les œuvres sociales sont en train d'être cédés pour les œuvres commerciales aujourd'hui. Il a cité tantôt sur l'avenue Presse de Liège. Tous ces espaces-là, on est en train de céder aux particuliers pour aménager des zones d'affaires, aménager de logements de luxe, aménager des supermarchés. Ces espaces ne devaient pas être cédés. Parce que ça s'appelle un changement de destination des espaces urbains. Ces espaces-là ont été cédés gratuitement aux confessions religieuses pour que ces confessions-là exécutent des œuvres sociales. Ce qui est en train d'être fait dans ces espaces-là n'ont rien à voir avec les œuvres sociales. Malheureusement, le ministre de l'Humanisme et Habitat, le ministre des Affaires foncières sont en train d'observer. Ils devaient réagir. Il devait réagir et interdire les changements de destination de ces espaces-là. Parce que nous savons à quoi c'est aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, le professeur l'a évoqué, mais vous avez un nombre très important d'enfants qui vont à l'école. Alors, ces enfants-là, tout de suite, on se rebute au problème d'infrastructure. Nous avons à peu près 60 000 écoles pour toute la République, 800 000 enfants qui vont à l'école.
Mais avec la gratuité.
Avec la gratuité, il y a 800 000 enfants aujourd'hui. Nous sommes
donc cela veut dire qu'il faut construire encore combien des écoles?
Mais il faut qu'il y ait une politique de développement des infrastructures. Que l'on sache qu'aujourd'hui, avec les taux de croissance démographique, avec les taux de croissance de la population, nous aurons dans les 10 ans qui suivent besoin d'autant de salles de classe, besoin d'autant d'hôpitaux. Nous aurons besoin d'autant de logements sociaux. Et ces choses-là sont définies dans les politiques publiques. Et ensuite, il y a des plans et il y a des budgets qui doivent être faits parce qu'il faut planifier. Vous ne pouvez pas faire tout le même jour. Il faut qu'il y ait une bonne politique, une bonne planification, une bonne budgétisation et que ces choses-là se réalisent de manière à ce que tout le besoin de la population soit à mesure d'être réglé.
D'accord, on va accueillir 3 auditeurs. Justin de Fongouroumé, héritier nous appelle de Bounia et Kachai de Kanyuka. Justin, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à nos invités.
Quelle est votre question par rapport à la viabilisation des zones urbaines?
Oui, merci. En tout cas, c'est très intéressant de m'associer au débat d'aujourd'hui. Mais je constate que nos invités sont des citadins. Et moi qui vous parle, je suis dans le milieu rural et je suis aussi victime de ces mouvements. J'ai quitté chez nous pour me retrouver ici à Fongouroumé. Donc il y a.
Vous avez quitté quelle région? Vous avez quitté quel village?
J'ai quitté les Olomami, territoire de Bukama, village Kayeye. Je suis le fils de Mama Kakaboyoa en Pombo. J'ai quitté pour me retrouver. Oui, oui.
Ok,
pour me retrouver. Oui. Pour me retrouver ici à Fungurume. Qu'est-ce qui m'avait poussé de quitter chez nous et venir ici? C'est à la recherche de l'emploi. Nous avons étudié, nous avons terminé, mais on ne trouvait pas là où on doit travailler. Il y a quatre provinces qui convergent vers Lubumbashi, Kasumbalesa, Fungurume et Kolwezi. Ce sont ces quatre milieux envahis par le venin de nous, les ressortissants, à la recherche de l'emploi. Et si on arrive sur terrain, on n'a pas l'emploi. Laisse-moi, M. Jody, expliquer d'abord à nos invités. Ils viendront les présenter d'abord la réalité de la situation. Quand on tombe en ville, on n'a pas là où on doit travailler. On trouve les entreprises saturées. Donc les autres se déguisent en prophètes. Ils sont des prophéties à la radio, en prophétisant, quelqu'un appelle et il lui donne sa vie, ainsi de suite, pour avoir de l'argent. Il y a les autres qui vont se déguiser en marabout. Donc il y a des calicots partout ici à Fungurume, les gens où ils traitent la folie, l'épilepsie, ainsi de suite. Il y a aussi ce qui est grave, le pit, les coureurs de jupons. Donc il y a les jeunes filles, le maman qui s'étale au bord de rue pour avoir un peu quelques sommes d'argent. Et ce qui est une désastreuse situation, les autres se déguisent en voleurs. Il y a des voleurs, ils ne trouvent pas l'emploi, ils cherchent quoi faire et ils commencent à entrer dans des maisons pour voler les histoires. Et pour ne pas seulement voler, on crible même des balles, on te vole, on viole et on te laisse handicapé. Alors tout ça, c'est par la recherche de l'emploi. On peut construire les hôpitaux, on peut construire les espaces pour le GIE et ainsi. Envoyer l'enfant à l'école, c'est avoir d'abord l'argent. Mais pour changer ces milieux, l'État a toutes les possibilités de créer l'emploi au village. On ne va forcer personne de rentrer chez lui quand il trouvera l'emploi chez lui au village. Mais il y a l'agriculture, il y a les usines modernes.
Merci.
qu'on met toujours en ville.
D'accord, mais merci.
On ne pense pas.
Merci,
oui, M. Jody.
Oui, merci, on a retenu votre préoccupation. Héritier, vous êtes à Bounia, bonjour. Bonjour, Héritier. Bon, il n'est pas en ligne. Kachaï de Kaduka, bonjour.
Bonjour, M. Jody, Daniel Kachama, et bonjour aux invités.
On vous écoute, Kachaï.
Merci beaucoup, M. Jody. Le problème de la croissance démographique en RDC, c'est, M. Jody, un problème voulu par l'État congolais, à tel point que lorsque l'État congolais a accédé à l'indépendance nationale et internationale, il a hérité tout du colon belge. Alors, ce qu'il a hérité, il l'a gardé et parfois il l'a détruit et il n'a pas cherché à pourvoir à d'autres choses. C'est comme ça que nous vivons. Nous avons étudié et nous étudions dans le bâtiment laissé par le Belge. Les hôpitaux que nous avons, ce sont les hôpitaux laissés par le Belge. Les églises, parfois, surtout l'église catholique, les cathédrales que nous avons, ce sont les cathédrales laissées par les Belges. Les routes que nous avons, ce sont les routes laissées par les Belges. La RDC, l'État congolais, les politiques actuelles, n'ont pas de bilan à faire aux Congolais par rapport à gérer cette république qu'ils ont héritée du colon belge. Monsieur Jody, moi je suis à Kanyuka. À Kanyuka où je suis, vous comprenez que c'est un village. Au village, qui ne peut vivre au village que celui qui est autochtone du village. Mais actuellement, ce ne sont pas seulement les villageois de Kanyuka qui y sont. Il y a des gens qui viennent de partout, même du centre-ville, qui viennent acheter des portions de terre à Kanyuka parce que là-bas, il y avait des espaces vides, inoccupés, comme en ville. Beaucoup de
D'accord,
gens
rapidement, y sont, quelle est la question? Rapidement. Quelle est votre question?
Oui, je voulais demander à ces démocrates-là pour que peut-être ils puissent porter parole au gouvernement. La politique là du gouvernement de construire 1000 écoles jusqu'ici, elle est où? Ça, c'est la première question. La deuxième question, les hospices des vieillards, les hôpitaux et consorts, tout ça, c'est parti où? Quand on a un gouvernement, chaque ministre, dans son département ministériel, doit chercher à faire présenter le besoin du ministère pour que tous ces besoins-là soient résolus par le gouvernement. Maintenant, ce que nous constatons, c'est que tout le monde est concentré à la CENI et au voyage du président de la République, mais pour chercher à organiser la vie en société,
d'accord,
dans nos milieux, pour améliorer même les conditions de vie dans là où nous vivons.
Merci.
Tout le monde ne s'occupe pas. Alors, vraiment, qui va s'occuper alors de la question de la RDC?
Merci, merci beaucoup, Kachai Dekanyuka. Professeur Barthélémy Kalambay, vous avez la parole.
Oui, merci, Jody. Merci, chers intervenants. Monsieur Justin de Fungurube, comme Monsieur Kachai, on soulevait une question en rapport avec l'immigration. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les principes migratoires, dans les théories migratoires, les meilleures conditions attirent les individus et les mauvaises conditions repoussent ces individus. On ne peut pas aller là où les conditions de vie sont mauvaises. Mmh. Mais on peut aussi penser avoir de mauvaises nouvelles. On se déplace pour un milieu, mais quand on arrive à ce milieu-là, le profil qu'on a ne permet pas à l'individu ou aux individus de bien s'insérer dans ce milieu-là. Ce qui fait que lorsqu'on arrive, comme le cas de Fungurube,
oui,
les gens qui arrivent n'ont pas suffisamment, ne sont pas dotés des capacités pour pouvoir s'insérer dans les activités qui sont développées à Fungurube. Il y a pas, dans ce pays, on ne crée pas d'emploi. On ne crée pas d'emploi. Et donc, quand on arrive à un milieu et qu'on ne sait plus se retrouver, il y a tout de suite d'autres stratégies de survie. Et ces d'autres stratégies de survie amènent les gens à développer des comportements bizarre à risque, notamment des comportements de criminalité.
Mmh.
Eh bien, c'est ce que nous vivons dans des grandes villes aussi, pas seulement à milieu rural.
Mmh.
Eh bien, l'homme doit mettre en place des stratégies pour survivre. Et donc, malheureusement, parmi ces stratégies, il y a des stratégies de criminalité. Tout le problème revient à la gouvernance. Le pays, la cité doivent être gouvernés. Et pour gouverner, on doit savoir qui est qui. Et qui est qui et il veut quoi. Nous parlons de la scolarisation des enfants. En 2012, nous avons fait une étude avec l'UNICEF. Et dans cette étude-là, il y avait 6 millions d'enfants en dehors de l'école. 6 millions d'enfants en dehors de l'école. Nous sommes en 2012. De 2012 jusqu'au moment où on décrète la gratuité. On n'a pas non plus pensé d'abord à ces enfants qui étaient en dehors de l'école. Et lorsqu'on vient avec la politique de la gratuité, l'application, on applique là les dispositions constitutionnelles.
Il y avait d'ailleurs un projet de construction des 1000 écoles, ingénieur Michel Oyumbu. Il y avait un projet pareil de construction des écoles.
Oui, il y avait un projet de 1000 écoles. Je crois que c'était le gouvernement Matata.
Mmh.
Je crois tout...
1000 écoles par an.
Bon, en fait, il n'y en a eu que 1000.
Oui.
Je ne crois pas qu'il y a eu d'autres écoles à part les 1000. Mais c'était quand même un petit soulagement par rapport à l'océan des problèmes que nous avons. Mais j'étais en train de dire tout à l'heure là qu'il faut qu'il y ait une politique de développement des infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement central, est-ce que nous savons, d'ici 5 ans, nous aurons besoin de combien d'écoles? D'ici 5 ans, nous aurons besoin de combien d'hôpitaux? D'ici 5 ans.
Besoin de combien de marchés?
Quels seront les besoins en matière, par exemple, des équipements publics? D'ici 5 ans, quels seront les besoins en matière de production en eau ou en matière de production en électricité? C'est l'ensemble de cette planification-là qui nous manque. Et l'ensemble de politiques, évidemment, de mise en œuvre pour résoudre aux différents besoins. Des solutions, amener des solutions aux différents besoins que nous avons. Donc, nous ne les avons pas planifiées et malheureusement, nous n'avons pas une politique pour le mettre en œuvre. Vous ne pouvez rien faire, monsieur Jody, si vous n'êtes pas en train de surveiller Et je suis heureux que les professeurs soient ici sur le plateau, parce que la démographie, je peux vous assurer, c'est la clé de développement. Si vous n'avez pas la maîtrise de votre démographie, c'est la démographie qui crée le besoin. Donc, si vous avez deux, il est simple à expliquer. Si vous n'avez qu'un seul enfant, ou si vous êtes un jeune couple marié, eh bien, vous n'avez pas besoin d'une maison de 3-4 chambres. Une seule chambre, une cuisine, une salle de bain, ça vous suffit.
Ça vous suffit.
Vous n'êtes qu'à deux dans une maison. Mais demain, vous vous retrouvez avec deux enfants, eh bien, les besoins continuent à croître. Et si ces enfants-là, vous vous retrouvez un jour avec 5-6 enfants...
Alors, il faut adapter aussi les infrastructures
Mais le problème chez nous, c'est que nous, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés dans une maison de chambre et salon. C'est ça la difficulté.
Et j'ai suivi même Kachaï dire que les mêmes routes construites par les Belges existent jusqu'à aujourd'hui.
Non, lui dit existe. Mais nous n'avons plus les 150 000 km de route. Il y a peut-être 80 000 km de route laissées par les Belges qui n'existent plus. Lui il dit que ça existe. Il n'y en a plus. Même dans la ville de Kinshasa. 60 ans après, quelle a été notre politique de développement des infrastructures routières? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre qu'il y a des embouteillages partout. Mais en linéaire, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons ajouté combien de kilomètres de route? Comment pouvez-vous imaginer une ville de plus de 12 millions d'habitants, vous n'avez qu'à peu près 500 à 600 kilomètres de route? C'est incroyable.
Avec tout ce parc automobile, les véhicules que nous avons.
L'ensemble de ces routes converge vers un point, le centre-ville.
Le centre-ville. Et le soir, c'est le même mouvement.
Le mouvement inverse. Alors nous allons continuer à nous plaindre, alors que nous n'avons pas pris de disposition pour adapter nos villes par rapport à nos besoins actuels.
Les conséquences, les embouteillages.
Les conséquences, pas seulement les embouteillages. Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes de déchets.
D'insalubrité, tout ça.
Nous avons des problèmes. L'ensemble de ces problèmes, c'est au fait une sonnette d'alarme pour nous dire, voilà monsieur, vous n'avez pas tenu compte de l'ensemble de ces problèmes et ils sont devant vous.
Et bien voilà. Professeur Barthélémy.
Ben, ce que l'ingénieur vient de dire, c'est encore très très important. Vous savez, nous sommes en train d'évoluer dans un monde moderne, comme si nous étions encore à l'Antiquité. Nous sommes dans un monde moderne. Et regardez, ben, prenons le cas de Kinshasa, parce que nous y vivons. Nous avons l'IBTP, où l'on forme des cadres supérieurs dans le domaine de la construction. Nous avons tout un institut d'architecture. Nous avons un département de démographie. Nous avons la sociologie, où vous avez la sociologie urbaine. Nous avons tous les experts, des experts qu'il faut pour pouvoir réfléchir sur l'urbanisation. Maintenant, regardez comment nous vivons. D'abord, les mesures qui sont prises, les dirigeants, là, ils arrivent, ils repartent, ils arrivent, ils repartent. Mais eux aussi, ils vivent comme si ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'on parle de la planification, on parle du recensement. Le recensement, c'est une photographie. On a photographié en 1984. On a pris la photographie de cette population-là. Nous avons eu la dynamique démographique. Nous avons eu le mouvement en termes de structure, cette photographie-là.
Aujourd'hui, les données sont complètement dépassées.
Nous devrions encore photographier en 1994 et pour voir comment est-ce que les choses ont évolué et voir où est-ce que nous allons avec ça. Nous avions des infrastructures qui nous avaient été léguées par les Belges. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de ça, je ne sais pas quand les Belges nous entendent ce qu'ils pensent de nous. Et je m'excuse. Quelle est l'image qu'on donne aux Congolais? C'est quelle image? Quelle est l'image qu'on donne aux dirigeants congolais? Regardez, je suis chez moi, je vois un monsieur qui vient, il travaille dans la police anti-incendie. Alors il vient me demander si j'ai un détecteur de fumée. Mais je lui demande, monsieur, as-tu déjà vu toi un détecteur de fumée? Ça se présente comment, un détecteur de fumée? Mais le monsieur qui vient avec un papier d'amende, de sorte que si je n'ai pas un détecteur de fumée, que je paye les amendes. Mais lui n'a jamais vu un détecteur de fumée. Regardez les immeubles. J'ai affaire, l'ingénieur est à côté. Les immeubles qui poussent là, il n'y a aucun dispositif pour pouvoir lutter contre l'incendie dans tous ces bâtiments-là. Il n'y a aucun dispositif. Mais entre-temps, nous sommes au centre-ville à Kinshasa, à la Gombe. Les immeubles montent. Il n'y a aucun dispositif. Lorsque ça prend feu, en tout cas, ça doit
être la catastrophe. Un instant, professeur, on va accueillir deux auditeurs. Paulin Kabangou de Kinshasa et Glody Bouanganga, il est également à Kinshasa. Paulin, bonjour.
Et bonjour l'auditeur, bonjour les invités.
Quelle est votre question, Paulin?
Bon, premièrement, j'ai une question à poser au président des ingénieurs de travaux publics, parce que moi-même, j'étais parti de coopération des ingénieurs. Est-ce que réellement, le gouvernement tient compte des plans de l'urbanisation, de ce qu'on appelle l'urbanisme, l'ESDAO, depuis que a été créé à l'époque coloniale? Deuxième problème, est-ce que il tient compte que, parce qu'en RDC, on a pu tenir que on détruit la ville comme toute agglomération qui contient au moins 100 000 habitants au-delà. Et puis il y a des villes qui ont été notamment par l'ordonnance présidentielle faite par le président Mobutu. Maintenant, par rapport à cela, je parle au cas concret de la ville province de Kinshasa. Aujourd'hui, nous remarquons que rien ne marche tellement. Et puis, nous avons une toute une surpopulation. Cette surpopulation sur la ville province de Kinshasa est due à de multiples problèmes. Des cerveaux, l'exode rural, la guerre, tout qu'on sort. Et puis, par rapport à cela, aujourd'hui, nous remarquons que nous n'avons rien comme infrastructure scolaire, nous n'avons rien comme infrastructure routière, nous n'avons rien comme des pour nous quitter cela. Et chargé de la démographie, les professeurs, que je dis encore les noms. Est-ce que les professeurs peuvent me dire que la ville province de Kinshasa aujourd'hui, sur les 24 communes qui regorgent, les 26 communes qui regorgent la ville province de Kinshasa, pourquoi la population est seulement dans le district de Tchango et non pas ailleurs? Je vous remercie.
Merci. Glody Bouanganga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour aux invités. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Vous n'êtes pas à Bandundu. Cette fois-ci, vous êtes à Kinshasa.
Je suis à Kinshasa pour le moment.
D'accord, on vous écoute.
Merci pour la parole accordée. Je pense que le problème qui se passe dans notre pays, nous avons le problème vraiment qui sont sérieux. Moi, je pense que si on ne propose pas des solutions d'ici 2023, vous allez voir, peut-être la ville de Kinshasa va disparaître. Depuis que les années j'ai venu à Kinshasa, j'ai fait un constat, il n'y avait pas la population comme je vis actuellement. Si vous parcourez dans les zones de la ville de Kinshasa, vous allez voir qu'il y a une surpopulation énorme, mais donc je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fait que les gens puissent quitter leur milieu habituel pour venir vivre aussi à Kinshasa. Alors, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires là-dessus, peut-être des autres ou bien dans des raisons personnelles. Mais monsieur le professeur, je sais que vous êtes docteur en démographie. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer au gouvernement? Parce qu'à l'instant, ce sont des scientifiques qui peuvent mettre des solutions et le gouvernement peut le mettre en pratique. Parce que dans notre pays, nous traversons des problèmes à ce qui concerne la démographie, c'est un peu anormal. Parce que si nous rentrons dans l'époque antérieure, un professeur, le professeur Beningondo, il est déjà décédé, c'est un démographe aussi. Il avait proposé un plan à l'époque, mais jusque-là, ce plan-là n'avait pas passé au niveau de l'Assemblée. Est-ce que vous êtes démographe? Vous pouvez pas aussi proposer un plan que le gouvernement congolais peut adapter, enfin on puisse quitter dans ces problèmes, sinon ça ne va pas, messieurs les professeurs, on risque de disparaître. Si vous pouvez vraiment nous aider, parce qu'il est temps de mettre les choses au sérieux au lieu de beaucoup parler. C'est ça un peu ma question. Qu'est-ce que vous proposez à ces problèmes? J'ai dit et je vous remercie.
Bien, merci beaucoup à Glody Bouanganga et à Paulin Kabangu. Monsieur l'ingénieur Michel Oyumbu, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je voulais revenir un peu à ce que le professeur a dit pour les immeubles qui poussent en ville, où vous n'avez même pas...
Des extincteurs.
Voilà, des dispositions qui sont prises pour la lutte anti-incendie. Mais ça, c'est un problème très sérieux. C'est un problème à prendre au sérieux, parce qu'évidemment, nous devons avoir une réglementation sur chaque bâtiment pour que les dispositions de lutte anti-incendie soient prises pendant la construction de l'ouvrage. Malheureusement, nous n'avons pas une réglementation. La réglementation était absente. L'autorité en charge de l'urbanisme et habitat ne s'intéresse pas. Même au niveau de permis de construire, on aurait mis là-dedans des clauses à observer pour que les bâtiments aient déjà des précautions en matière de lutte anti-incendie. Mais cela n'a jamais été question. Et nous pensons que ces dispositions-là devaient être revues de manière à ce que pendant même la construction ou avant l'obtention du permis de construire, qu'il y ait eu des obligations pour que les dispositions soient prises en matière de lutte anti-incendie. Ça, c'est très important. Donc, au niveau même du réseau de distribution d'eau potable de la Régie des Eaux, on aurait dû avoir des réglementations pour qu'on sache à différents endroits sur les réseaux qu'il y ait même des bouches, ce qu'on appelle des bouches d'incendie, des endroits où un véhicule anti-incendie peut venir se connecter et prendre de l'eau rapidement pour aller éteindre les incendies. On a vu des véhicules qui sont arrivés, des véhicules de lutte anti-incendie qui sont arrivés sur les endroits, mais n'ayant pas de l'eau dans le véhicule. Nous avons déjà vu. Si vous dites non, mais nous sommes là, mais nous n'avons pas d'eau. Et ils cherchent un endroit où ils doivent aller chercher.
Ils doivent aller trouver de l'eau. Entre-temps, le feu n'attend pas.
Entre-temps, le feu est en train de progresser. Donc, oui. Ça, c'est quand même un problème à prendre très au sérieux.
Alors, Glody vous demande un plan d'adaptation. Le problème est réel. Maintenant, il faut un plan.
Non, mais le problème, il est réel, mais il est très complexe. C'est pas un problème simple. Le problème que nous avons, c'est un ensemble de problèmes que nous avons. Vous ne pouvez pas. Le professeur a brossé. Il a parlé de la démographie. Je suis totalement d'accord avec lui. Vous savez, dans tout le secteur de développement, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas la maîtrise de la démographie. Si vous voulez servir de l'eau à la population, vous devez connaître cette population. Elle est de combien? Et dans 5 ans, cette population pourra progresser de X habitants à Y habitants. Vous devez connaître le taux de croissance de ces populations.
3% là.
C'est par RDC. Rapport. Non, la ville de Kinshasa même.
Non, je parle. Le professeur a parlé de la RDC.
Oui, mais ça, c'est la RDC. La ville est au-delà de 3-4%. Je crois que le professeur le sait beaucoup mieux. Vous comprenez par là. Même au niveau des infrastructures scolaires, vous devez connaître la photographie de nombre d'enfants à scolariser. Il a dit tantôt. Et vous devez connaître aussi le taux de croissance de cette population scolaire. C'est par rapport à ce taux de croissance de ces populations scolaires que vous allez évidemment projeter les besoins en matière d'infrastructures scolaires. Aujourd'hui, nous avons suivi tout ce qui s'est passé avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, sur les facultés de médecine. Bon, les problèmes sont beaucoup plus sérieux que dans la faculté de médecine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait plus de 30-40 ans et nous n'avons pas développé des infrastructures d'enseignement et des infrastructures éducatives. Nous n'avons pas non plus pensé à installer des universités viables dans des endroits où il y a de besoins. Et en réponse à cela, écoutez, comme le monde horaire est vide, il y a des quelques particuliers qui se sont efforcés pour le faire. Ils les ont fait avec leurs moyens. Mais est-ce qu'au niveau du gouvernement, on a un plan de développement des infrastructures universitaires, par exemple?
Professeur, l'auditeur vous demande de développer un plan, de le proposer au Parlement.
Oui, il faut d'abord dire que le pays n'a pas une politique de population. À partir du moment où on n'a pas cette politique de population, tout ce que nous sommes en train de dire là, on est en train de naviguer à vue. On navigue à vue, un ministre arrive, il improvise ce qu'il veut faire. Et puis, dès qu'il est parti, ce qu'il avait commencé reste dans les tiroirs.
L'autre qui arrive, autre chose.
Oui, c'est ce que je dis. Mais nous sommes là, nous sommes dans un monde sauvage. Nous sommes dans un monde sauvage. Je m'excuse de terme, c'est peut-être brutal. Mais on ne devrait pas fonctionner comme ça. Regardez, il y a eu un état des lieux du secteur d'enseignement supérieur universitaire.
Oui.
À Lubumbashi. Pendant que nous réfléchissons à l'enseignement supérieur universitaire, on n'a pas associé le secteur de l'enseignement de base, l'enseignement primaire et secondaire. Parce que ce sont ceux-là qui vont nous envoyer les enfants. On n'a pas réfléchi ensemble. Pendant que nous sommes en train de réfléchir à la recherche scientifique au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, au niveau de la recherche, il y a tout un ministère de la recherche scientifique qui fait aussi son plan. Bien. Et alors que nous devions travailler en synergie, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture entre ces gens de tous ces ministères. Regardez, lorsque vous êtes à Kinshasa, à la Gombe et Barumbo et tout ça, une parcelle qui avait 20 mètres carrés à l'époque, et cette parcelle peut être morcelée en 5 morceaux. Et lorsqu'on fait ça, c'est avec la bénédiction des experts du ministère
des affaires foncières.
Affaires foncières, urbanisme et habitat. Eh bien, on est où là? On est où? Si nous sommes incapables de pouvoir initier des choses, mais nous pouvons simplement copier. Nous allons chez les autres, nous voyons comment ça fonctionne. Faisons quand même du copier-coller.
À ce jour, il est difficile de proposer un plan tant qu'il n'y a pas eu de recensement.
Il n'est pas difficile parce qu'il faut commencer quelque part. Quelque part, commençons par le recensement pour savoir quelle est la population là. À quelles caractéristiques? Nous sommes au nombre de combien? Nous avons besoin, les enfants d'âge scolaires, ils sont au nombre de combien? Et quelles sont les infrastructures scolaires que nous avons? J'avais posé une question à un ministre, je préfère ne pas dire de quel secteur. Je dis, monsieur le ministre, combien de gynécologues avons-nous à Boma, dans la ville de Boma? S'il m'écoute, il va se rappeler. L'ex-ministre me dit, je ne sais pas. Je demande encore à son excellence, monsieur le ministre, combien d'ingénieurs agronomes avons-nous dans ce pays?
Il ne sait pas.
Il ne sait pas. Et alors, moi je suis ingénieur agronome, technicien, et nous avons des collègues, des condisciples, depuis que nous avons terminé avec eux, ils n'ont jamais travaillé. Maintenant, ils vont aller à la retraite. C'est un problème de planification. Mais dans ce pays, on ne planifie rien.
Donc, comme on pense déjà au recensement avant les élections, on peut dire que...
C'est très, très important. Il faut vraiment le faire. Sinon, ce sont des aventures. Et vous n'avez jamais vu des gens aller dans la rue pour faire des marches en train de réclamer un recensement. Maintenant, c'est la CENI. Point barre.
On ne parle pas de recensement.
Non. La CENI, c'est la CENI. C'est la CENI, rien que la CENI. D'accord. En fait, on a besoin simplement du pouvoir. Oui. Ôte-toi de là que je m'y mette. Point barre.
Point barre, c'est
et
tout.
Et puis, oui, on ne parle pas de ces choses sérieuses.
Merci,
vous allez
professeur.
Avoir la CENI, vous allez avoir le pouvoir. Oui. Et c'est pour faire quoi?
Merci, professeur. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur Barthélémy Kalamba Ibanza, démographe. Nous disons aussi merci à monsieur Michel Ouyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP de la RDC. Donc, vous allez encore revenir dans ce studio prochainement pour continuer à débattre sur cette question. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci, jeudi.